Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Patience Ngalula. D'abord les titres. Après publication des premières tendances des résultats à l'élection présidentielle du 20 décembre au niveau de la diaspora, Moïse Katumbi, Augustin Matata, Franck Diongo, Délice Sanga et Seth Kikuni demandent l'annulation des élections. Les évêques catholiques congolais éclairent l'opinion sur la bénédiction des couples homosexuels et LGBT en général. Selon la CENCO, le mariage existe exclusivement entre un homme et une femme et est naturellement ouvert à la procréation. L'invité de ce journal, c'est Moulis Yakeli, un jeune réalisateur qui vient de produire un film documentaire intitulé « La voix des oubliés ». Dans la réalisation de ce film, Kelly Moulisia dit s'être inspiré du courage des élèves de Beni qui avaient organisé un sit-in devant l'hôtel de ville en 2021 pour réclamer la paix. Bonjour à tous. Ouvrons ce journal par cette déclaration. Nous en appelons à l'annulation immédiate des scrutins chaotiques du 20 décembre, lesquels ont été entachés de fraudes massives telles que documentées par toutes les parties prenantes. Déclaration ce samedi dans la soirée de Moïse Katumbi, Augustin Matata, Franck Diongo, Délice Sanga et Seth Kikuni. Ses opposants estiment que la publication des résultats, bureau de vote par bureau de vote, n'a plus aucune crédibilité. Ils rejettent les résultats issus de ces processus et disent qu'ils ne reconnaîtront pas les institutions qui en seront issues. On écoute un extrait de cette déclaration lue par Seth Kikuni.
La publication des résultats, bureau de vote par bureau de vote, n'a plus aucune crédibilité. Elle devient théâtrale. Le jeu ayant été faussé, les votes dépouillés et consignés sur le PV n'étant pas ceux exprimés par le peuple et l'intégrité de l'ensemble du processus compromis de manière irréversible. Face à cette situation inacceptable, nous en appelons à l'annulation immédiate de ces élections chaotiques, entachées de fraudes massives telles que documentées par toutes les parties prenantes. Nous en appelons en outre à la démission immédiate du président de la CENI et sa mise en accusation, ainsi que les autres membres du bureau, pour avoir planifié et orchestré la pire fraude électorale que notre pays n'ait jamais connue et avoir privé des millions de Congolais de leur droit de vote. En conséquence, nous n'acceptons pas les simulacres des résultats qui seront issus de ces processus et des institutions qui en découleraient.
Et puis, 12 chancelleries occidentales appellent toutes les parties prenantes au processus électoral en RDC à continuer de faire preuve de retenue, laisser les temps au processus de se poursuivre et à faire valoir leurs contestations de manière pacifique, conformément aux lois et à la Constitution pendant que les décomptes des voix se poursuivent. Alain Irung pour le détail.
Cette déclaration conjointe a été publiée ce samedi par l'Allemagne, la Belgique, le Canada, l'Espagne, la France, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la République tchèque. Ces pays affirment suivre de près le déroulement du processus électoral en RDC et saluent l'élan démocratique dont les électeurs congolais ont fait preuve. Pendant ce temps, 5 candidats à la présidentielle ont adressé une correspondance au gouverneur de la ville de Kinshasa pour l'informer de leur marche du mercredi 27 décembre prochain. Martin Fayoulou, Denis Mukwege, Théodore Ngoy, Jean-Claude Baende et Nkema Lilo disent vouloir protester contre les irrégularités constatées lors des opérations de vote du 20 décembre 2023.
Pour sa part, le vice-premier ministre de l'Intérieur estime que lorsque la majorité se dégage en faveur d'un candidat, ceux qui n'en ont pas doivent s'incliner. Peter Kazadi met en garde tous ceux qui vont pousser la population à des actes contraires à la loi. Autre chose, la Commission électorale nationale indépendante dit être saisie par diverses sources des actes de violence, des vandalismes et des sabotages perpétrés par certains candidats mal intentionnés à l'endroit de son personnel, son matériel et son patrimoine lors du déroulement des scrutins combinés du 20 décembre 2023. Cette communication a été faite ce samedi dans la soirée par Madame les rapporteurs de la CENI au centre Bossolo où les journalistes et observateurs attendaient la poursuite de la publication progressive des résultats de l'élection présidentielle. Toutefois, elle a annoncé pour ce dimanche la poursuite de la publication progressive des résultats de l'élection présidentielle sur les plans nationaux. On écoute Patricia Seya au micro de Grace Hamzati.
La CENI condamne avec la dernière énergie ces actes répréhensibles par la loi et contraires aux bonnes pratiques électorales. Face à tous ces actes d'une extrême gravité, la CENI entend rassurer l'opinion publique de sa ferme détermination à ne pas laisser impunis ces forfaits et a, de ce fait, mis en place une commission d'enquête afin de procéder aux investigations nécessaires. Les mesures appropriées seront prises à l'encontre de ces agents et ou des candidats qui se seraient rendus coupables ou complices de ces actes. Par la même occasion, la CENI porte à la connaissance de toutes les parties prenantes au processus électoral en cours, particulièrement les candidats indépendants et ceux des partis ou regroupements politiques, qu'elle poursuit la publication des résultats déjà amorcés avec l'annonce des résultats du scrutin présidentiel pour les Congolais résidant à l'étranger. Pour ce faire, la centrale électorale procède actuellement au ramassage du matériel pour la compilation des résultats.
Entre-temps, les réseaux des femmes leaders de l'Afrique, section RDC, dénoncent et condamnent les actes de violence dont les femmes sont victimes pendant les processus électoraux en cours. Annie Maudy, directrice de l'association Afiamama, membre de ces réseaux, appelle les cours et tribunaux à diligenter une enquête afin de mettre la main sur les auteurs de ces actes de violence. Elle a fait cette déclaration ce samedi ici à Kinshasa au cours d'une conférence de presse. Annie Maudy l'a dit à Paul Matendo.
Nous sommes en train de plaider, de militer pour que justice soit faite par rapport à des cas de violence sexuelle dans les zones en conflit. Nous voilà surpris par l'utilisation de la violence populaire qui met en évidence la nudité de la femme dans des zones qui ne sont pas en conflit. Et alors, ça nous a mis dans un état d'alerte. Nous craignons maintenant pour notre sécurité, même dans les zones où il n'y a pas de conflit, surtout que même une défenseure judiciaire, une activiste dans les Kasaï, aussi a été dénudée. Finalement, qui peut plaider pour les femmes? Donc, nous nous sommes rassemblés pour dénoncer, condamner, exiger que la justice soit faite et interpeller nos procureurs. Il faut qu'ils se saisissent de ces genres de situations. Parce que tout ceci est la conséquence des discours de haine que tous les leaders politiques de toutes les tendances ont tenus avant les élections, des discours divisionnistes qui font qu'aujourd'hui, les Congolais commencent à se regarder comme des ennemis.
Dans la province du Bazouélé, les habitants des Banda dans la chefferie Mopoy, territoire d'Ango, ont exercé leur devoir civique hier samedi. Ils n'ont pas pu voter à la date du 20 décembre initialement prévue faute des machines qui traînaient encore en route. Les opérations de vote se sont déroulées dans les calmes dans les 7 bureaux de vote en dépit de quelques difficultés techniques. Témoignage du président de la société civile locale, Théophile Zabina. Ses propos ont été recueillis par Jacques Mukonkole.
Le bureau s'est ouvert vers 6h du matin, heure locale. À l'ouverture, des machines de vote n'ont pas pu fonctionner. C'est après 45 minutes que le bureau B a commencé à fonctionner et pour le bureau F, après 1 heure du temps que ça a pu fonctionner. Le taux de participation était élevé, sauf d'autres votants ne savaient pas bien jouer la machine à voter. Cependant, ils étaient aidés par les premiers votants dans le même bureau et les opérations étaient bien déroulées. La machine a connu un bourrage dans le bureau A parce que le taux d'alphabétisme est élevé dans ce milieu. L'électeur avait plié le bulletin de vote introduit dans la machine avant qu'il ne puisse voter et ça a causé beaucoup de bourrages. Peu de temps après, le technicien de centre de vote, Ilo, avait décanté la situation et le scrutin s'est déroulé dans tous les coins, dans le calme. Nous remercions grandement la CENI pour ses efforts qu'il a fournis.
Et dans la province du Sankuru, c'est ce dimanche que les opérations de vote ont lieu dans le territoire de Lusambo. Les habitants de cette ville ont été invités à participer au vote par le secrétariat exécutif provincial de la CENI Sankuru à travers un communiqué diffusé ce samedi sur les médias locaux. D'après Eldo Kabeya, secrétaire exécutif provincial de la CENI Sankuru, plusieurs dispositifs de vote ont été déployés depuis bientôt 2 jours dans 63 bureaux de vote ouverts mer à travers la ville de Lusambo et dans certaines localités du territoire où le vote n'a pas eu lieu. À la veille de la fête de Noël, plusieurs parents se plaignent de ne pas avoir suffisamment de moyens pour faire plaisir à leurs enfants. Dans la ville de Bukavu, par exemple, nous sommes allés à la rencontre de quelques-uns, mais aussi des enfants qui comprennent que les temps sont durs. Ce reportage est signé Rachel Kiesse.
Qui pense Noël, pense cadeau, pense fête, pense famille. Pourtant, à quelques heures de la fête de Noël, plusieurs parents de la ville de Bukavu ne sont pas prêts pour satisfaire les attentes de leurs enfants, se plaignant ainsi du manque des moyens pour ce faire.
Vraiment, c'est très chaud. Chacun tire de ses côtés. On cherche quoi donner aux enfants, des cadeaux, des habits.
En tant que parent, il y a vraiment des choses. Hein.
La période de festivités, en tout cas, c'est compliqué pour les parents, surtout par rapport à l'argent. Plusieurs ne sont pas encore payés. Jusqu'à présent. Alors c'est vraiment compliqué pour que les enfants aient des cadeaux de Noël, même des habits.
Les enfants de leur côté semblent comprendre ces difficultés.
Pour cette année, en tout cas, ça a été un peu serré pour les parents. Ça a été un peu serré. Il y a des enfants qui n'ont pas vraiment eu de nouveaux habits comme ils en ont l'habitude, mais quand même, ils ont fêté et ça a été le plus important.
Par rapport aux moyens, vraiment, c'est difficile parce qu'il y a hausse de prix. Il n'y a pas moyen. Beaucoup de parents n'ont pas pu faire la fête pour les enfants, acheter les habits.
Malgré cela, la fête de Noël demeure cette célébration chrétienne pour commémorer la naissance de Jésus. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Et puis, cette mise au point des évêques de la RDC sur la bénédiction simple des membres de couples des personnes des mêmes sexes. Pour la Conférence nationale épiscopale du Congo, CENCO, les mariages existent exclusivement entre un homme et une femme et est naturellement ouvert à la procréation. Les cas d'union des personnes de même sexe sont les unions déviationnistes qui n'entrent pas dans l'ordre de la création. La mise au point de la CENCO hier intervient à la suite de la déclaration fiducia supplicans sur la signification pastorale du mariage. Préoccupée par de nombreuses réactions que cette déclaration a suscitées, la CENCO exhorte les fidèles de la RDC à demeurer fermes dans l'attachement au Christ et en réaffirmant les valeurs chrétiennes et africaines. On écoute Mgr Donatien Chollet au micro de Alain Hurung.
Comme le document lui-même exhorte les évêques à être prudents par rapport à leur réalité, les évêques, dans cette perspective, ont trouvé bon, pour ne pas semer de confusion, pour ne pas faire croire que, en bénissant des personnes homosexuelles qui sont en couple, que les gens croient qu'on bénit l'union, ce qui n'est pas possible parce que cette union, en fait, n'existe pas parce qu'elle est contre nature. Voilà pourquoi les évêques ont recommandé au ministre des Sacrements, au ministre ordonné, de ne pas donner la bénédiction à ces personnes sous toute forme. Et les évêques rappellent aussi que le document ne parle pas que des homosexuels, mais il y a aussi les hommes et les femmes qui sont mariés, mais qui sont dans une situation irrégulière. Ceux-là n'ont pas droit à la bénédiction dans le cadre liturgique. Mais en dehors de la liturgie, ce sont des gens qui sont bien accueillis, bien reçus dans l'Église, qui accueillent tout le monde, même les pécheurs. Donc il n'y a pas de confusion à ce niveau-là.
Jusque-là, nous n'avons pas encore pu avoir la réaction d'une association LGBT. En Nord-Kivu, des nouveaux combats signalés tôt ce dimanche dans le groupement Bukombo, dans le territoire de Rutshuru. Ces affrontements se déroulent notamment dans les villages Mouchebere, Boubacha et Bankuba, dans la chefferie de Bouito, à la lisière du territoire de Masisi. Des sources à Mueso affirment que ce sont les rebelles du M23 qui ont attaqué simultanément ces trois villages. Des tirs à l'arme lourdes et légères sont entendus vers Mueso, à 5 km des lieux d'affrontement, et une psychose gagne déjà les habitants. Par ailleurs, les sources à Bambo parlent également des tirs sporadiques tirés dans ces villages la nuit dernière occupés par le M23. Ces sources confirment qu'un jeune du milieu a été tué à bout portant par les rebelles hier samedi. En Ituri, des activités des droits de l'homme, des activistes, voulais-je dire, des droits de l'homme du territoire des Mambasa dénoncent les meurtres d'un homme par un militaire de la 31e brigade samedi dans le village Mavouvou, dans la chefferie des Bombo, à 150 km du centre des Mambasa. Selon ces acteurs de la société civile, cet homme en uniforme a tiré plusieurs fois sur la victime qui revenait d'un carré minier avec un petit sac de sable. Il y travaille comme ouvrier. Son bourreau a voulu lui ravir son colis. Une dispute s'en est suivie et les soldats ont ouvert le feu sur ces jeunes d'une trentaine d'années, les tuant sur les coups. Ce meurtre est le troisième enregistré en espace de moins de 2 mois dans cette entité. Les activistes des droits de l'homme de Mambasa demandent aux autorités le relèvement des éléments de la 31e brigade qui, selon eux, sont accusés de plusieurs cas de violation des droits humains après avoir passé plus de 10 ans dans cette région. Comme l'explique l'un d'eux, John Vouleverio, joint au téléphone par Martial Kizabiamungu.
Les militaires encore de la 31e brigade, vraiment, on ne comprend plus rien. C'est dans un site minier là où il était commis à la garde des Chinois. C'est juste toujours dans la chefferie de Bombo. Il y a un site qui s'appelle RM. C'est là qu'il a tué. Si les jeunes prenaient un peu du sable qui s'appelle Masako. Alors ces jeunes-là, quand ils sortaient du site, et bien longtemps, il avait conflit avec ces militaires-là, brigands, autour d'une femme. Alors, le militaire lui a demandé de laisser ce petit sable-là. Mais le civil n'a pas aussi accepté et s'acharna directement sur lui. Directement, le militaire s'est permis de tirer sur les jeunes frères. C'est condamnable, vraiment. C'est une situation qui est insupportable. Parce que, vous savez, l'armée est là pour garantir la sécurité des citoyens. Maintenant, quand ça change de camp, l'armée se charge maintenant à tuer les gens. On ne peut plus placer confiance aux éléments de l'ordre. Donc, c'est vraiment un désordre.
Les commandants de la 31e brigade, le général Mugisa Muleka, rejettent cette version des faits. Il parle, lui, d'une discussion privée entre un militaire ivre et un civil qui voulait ravir au militaire son arme. Les commandants de la 31e brigade précisent que l'auteur du meurtre a été immédiatement mis aux arrêts après l'incident et traduit en justice pour qu'il réponde de ses actes.
Actualité internationale.
La guerre à Gaza affecte aussi le trafic maritime mondial et en soutien aux Palestiniens, les rebelles Houthis au Yémen ont depuis un mois fortement intensifié leurs attaques sur les navires marchands transitant par la mer Rouge, un des corridors maritimes les plus fréquentés au monde. Face à ces attaques, plusieurs compagnies de transport ont décidé par sécurité de ne plus passer par la mer Rouge mais de contourner l'Afrique via les caps de Bonne Espérance en Afrique du Sud. Un défi logistique pour assurer les ravitaillements des porte-conteneurs. Peu de ports africains sont équipés pour accueillir un tel trafic. Celui des Durban en Afrique du Sud est le plus grand et le plus avancé de l'Afrique subsaharienne, mais il souffre depuis plusieurs mois d'importants retards en raison notamment.
L'invité.
En invité, nous recevons Moulissia Kelly, un jeune réalisateur qui vient de produire un film documentaire intitulé « La voix des oubliés » dans la réalisation de ce film. Kelly Moulissia dit s'être inspiré du courage des élèves de Beni qui avaient organisé un sit-in devant l'hôtel de ville en 2021 pour réclamer la paix. Projeté déjà dans plusieurs villes du pays, ce film documentaire a été lancé pour la première fois sur la chaîne YouTube M. Kelly Katz. Sadiki Aboubakar s'est entretenu avec les réalisateurs Moulissia Kelly à ce sujet. Suivez.
Moulissia Kelly, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous venez de lancer sur YouTube le documentaire intitulé « La voix des oubliés ». Pourquoi « La voix des oubliés »
Quand on parle de « La voix des oubliés », ça signifie qu'au départ, il y a déjà eu des voix qui ont été élevées pour faire entendre une idée, une pensée, peut-être des réclamations aussi. Mais cette voix-là était déjà plongée dans les oubliettes. Parce que c'était une voix des élèves qui avait été mise par rapport aux réclamations sur la paix. Mais nous voulons que cette voix ne soit pas oubliée.
Et qu'est-ce qui vous a motivé pour réaliser ce long métrage?
C'était d'abord pour pérenniser l'action que les élèves avaient menée. Je me suis identifié en fait à eux parce que nous sommes en train de vivre dans les massacres depuis 2014. Et pour moi, ça revêtait beaucoup plus un caractère particulier parce que c'était des élèves, des jeunes, des enfants qui sont venus passer nuit à la mairie pendant cette période. Et pour nous, ça nous a vraiment motivés de venir et faire voir cela au monde entier, parce que beaucoup de personnes ignorent ce qui se passe ici. Il a fallu réunir les données, veiller sur la cohérence des faits. Ce sont des actions qui ne doivent pas être oubliées. Ce n'est pas une réalisation qui avait été financée au départ. On ne peut pas attendre que quelqu'un d'autre vienne rencontrer notre histoire.
En résumé, Moulissi Akeli, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce film documentaire?
Bien sûr, La Voix des Oubliés, ça met en relation beaucoup de témoignages des élèves qui ont eu à participer au sit-in. Ça met aussi en avant aussi les différentes promesses qui avaient été données après les sit-ins.
Quelles sont vos attentes à l'égard du public congolais et étranger, bien sûr, qui va regarder ces films documentaires?
Nous aimerions premièrement voir cette vidéo prendre de l'ampleur, dans le sens que ça puisse éveiller les consciences. Si nous nous levons et que nous prenons conscience que la situation d'une région concerne toute la République, mais il faut un peu s'imprégner de la situation qui se passe et de pouvoir aussi changer de mentalité. S'il y a un politicien, s'il y a quelqu'un qui a le pouvoir des décisions, je crois que c'est le temps que les gens puissent prendre leurs responsabilités en main.
En parlant des projections, vous en avez fait combien et où précisément? Mais aussi, quelle a été la réaction du public?
La projection qui a lancé était à l'université officielle de Semoulik. Nous avons ici une autre grande projection au stade des baskets. Ça a rempli nos cœurs déjà de voir que les personnes viennent voir un documentaire, d'abord à Beni. Et on avait eu beaucoup de commentaires positifs par rapport au documentaire. À Butembo, à l'UCG, nous avons eu à Goma, à l'Institut français, à l'ULPGL. À Kinshasa, nous avons fait beaucoup de projections dans différentes communes de Kinshasa. Mais nous avons aussi une projection à l'UNIKIN où on a pu confronter ces documents à différentes idées des étudiants. Et l'une des grandes projections que nous avons eues, c'est aussi avec l'Union européenne, parce que c'était vraiment le moment où on a confronté la vidéo un peu face à aux décideurs aussi, quelque part sur les plans internationaux, mais la vidéo a déjà été vue même par différentes couches de la politique en RD Congo. Et nous espérons maintenant qu'avec ces faits de rendre ce documentaire public, va permettre à ce qu'un grand nombre puisse s'imprégner.
Le documentaire a été inspiré du sit-in des enfants de Beni qui réclamait la paix en 2021. Aujourd'hui, quel tableau vous pouvez peindre de la situation sécuritaire de la région 2 ans après?
C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont fournis par-ci, par-là pour pouvoir ramener la paix, mais ce n'est pas encore suffisant parce qu'il y a toujours cette psychose-là qui est dans le quotidien de la population des Beni. N'importe quand, on peut arrêter les cours. S'il y a une situation qui ne plaît pas, il peut y avoir une grève, il peut y avoir une marche. C'est vrai, aujourd'hui, ça a un peu diminué, mais l'insécurité est encore là. Parce que quand on parle des Beni, on ne voit pas seulement la ville des Beni. On veut devenir habitué au malheur, ce qui n'est pas du tout bon. C'est vrai, les élèves, ils vont aujourd'hui au cours, mais le système éducatif a été un peu perturbé. Et vous pouvez même faire l'évaluation par rapport aux années, commencer 2014 à 2018, ok? Et puis évaluer maintenant les résultats de ces élèves-là qui sont sortis de cette période-là, vous trouverez que c'est vraiment lamentable.
Pour terminer, Moulissi Akeli, comment est-ce que le public peut accéder à ces films documentaires?
En fait, le documentaire est accessible à tous sur notre chaîne MKELI4 sur YouTube, où vous trouverez les documentaires La Voix des Oubliés. Nous vous demandons de les consommer.
Moulissi Akeli, merci.
C'est la fin de ce journal sur Radio Okapi, mise en onde par Dieudonné Nyangasa, supervision et coordination d'Alain Irung et Noëlla Luzitu. Merci de l'avoir suivi et bonne fête de Noël à tous et à toutes.